Émission de littérature en compagnie de Françoise Lavocat pour parler de faits et fictions pour une frontière parue ce mois-ci aux éditions du Seuil dans la collection poétique de Gérard Genette. Bonsoir Françoise Lavocat.
Bonsoir.
Nous commençons par votre parcours universitaire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question de... cette question sur la fiction, question qui peut être aussi prise de manière philosophique, sur la fiction et la différence qu'il pourrait y avoir entre des fictions et des faits. Voilà, si vous pouvez nous parler au commencement de votre parcours, ce qui vous a amené à cette réflexion.
Eh bien, pour parler de mon parcours universitaire, j'ai effectivement commencé par un livre sur la pastorale, le roman pastoral et donc l'univers de l'Arcadie, monde de fiction par excellence, où habitent des bergers fictifs et des moutons fictifs, et un monde de fiction qui est d'ailleurs souvent méprisé ou dédaigné, justement parce qu'il paraît le comble de l'artifice. Et puis je me suis aperçue que c'était souvent le moyen d'allégoriser l'histoire, de parler de politique, et que c'était une façon d'intriquer, encore une fois, le comble de la fiction et de l'artifice avec des préoccupations très réelles. Ensuite, j'ai écrit un livre, quelques années plus tard, sur la figure de Pan, du dieu Pan, et des satyres, et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a stupéfiée, qui était qu'au début du XVIe siècle, tout le monde était à peu près d'accord pour considérer que ces créatures étaient des créatures fictionnelles, que c'était des dieux mythologiques, des dieux du passé qui n'avaient plus cours. Et au cours du XVIe siècle, le doute est venu et on a fini parfois par considérer que les satyres existaient dans la nature, qu'il y en avait en Afrique, qu'il y en avait en Amérique, qu'on venait de découvrir, qu'il y en avait dans les forêts autrichiennes, d'autant plus que l'essor de la démonologie, l'essor de, c'est-à-dire la science de la sorcellerie, avait mis le diable au sens, au centre des préoccupations et des hantises, et on a reconnu dans ces pauvres satyres à pied de chèvre eh bien, des figures du diable, et les gens ont commencé à en voir apparaître dans leurs fantasmes et dans leurs rêves. Et donc, voilà, ce passage de la fiction au fait prétendu m'a beaucoup intriguée. J'ai essayé de comprendre comment un tel phénomène avait pu se passer. En général, on croit plutôt que ce qu'on a pris pour fait, par exemple des divinités, eh bien avec le temps est considéré comme fictionnel, eh bien là j'ai constaté le mouvement inverse. Et ce livre de 2005 a été peut-être vraiment a vraiment déclenché le désir d'une réflexion plus large, plus approfondie. Et j'ai aussi publié un livre collectif qui a eu deux livres collectifs qui ont une grande importance pour moi. L'un sur la théorie littéraire des mondes possibles et l'autre sur qui s'appelait Fiction et culture, que j'ai coédité avec Anne Duprat, et où j'ai essayé de demander à un grand nombre à des chercheurs de se demander quelle était la conception de la fiction dans toutes les aires du monde, à la fois dans le passé et dans le monde contemporain. Donc ça a été vraiment des années de travail préparatoire sous des angles différents pour arriver à ce livre. Et puis j'oserais vous dire aussi, pour parler de quelque chose qui précède mon parcours universitaire, que j'ai passé mon enfance à réécrire la fin des romans pour les rendre plus aimable, plus favorable aux personnages, pour sauver les personnages. Il est beaucoup question dans mon livre du désir de venir en aide aux personnages, et évidemment c'est un désir que j'ai éprouvé et que je crois partager.
comment se nomme la discipline dans laquelle vous officiez? Est-ce que ça se nomme la narratologie?
Écoutez, j'enseigne la littérature comparée. Et la narratologie, la science du récit, concerne bien évidemment mon travail, mais ne le résume pas. Je pense que mon travail déborde la narratologie. Je distingue d'ailleurs la fiction du récit. Et je crois que les problèmes de fiction débordent véritablement le périmètre de la narratologie. Quoique la narratologie contemporaine se soit beaucoup ouverte, et en particulier aux questions de fiction, aux questions de soulevées par la science cognitive, et donc je ne rougirai pas du tout de me dire narratologue, mais cela dit, cela me paraît encore quand même un peu trop étroit par rapport à ce que je fais.
Y aurait-il alors un terme pour qualifier le type de travail que vous effectuez depuis des années? Parce que ce livre-là, Fait et fiction pour une frontière, c'est un livre somme, c'est la somme de tout ce que vous avez développé en recherche ces nombreuses dernières années. Comment est-ce qu'on pourrait nommer cela puisque ça dépasse le cadre de la narratologie?
Écoutez, il est difficile de trouver une étiquette. J'accepte celle de narratologie, bien sûr. Encore une fois, je pense que je défends aussi beaucoup l'étiquette du comparatisme. Je défends la littérature comparée. Je pense que c'est de la littérature comparée. Mais il est vrai que la pluridisciplinarité est au centre de mon livre. Et là aussi, ça dépasse la littérature comparée parce que j'ai véritablement, comme vous en êtes sans doute rendu compte, essayé de puiser dans vraiment différents champs du savoir pour écrire ce livre.
Alors, c'est justement ça qui va... Moi, qui m'a intéressé, qui m'a captivé, c'est les différents champs du savoir, c'est-à-dire que votre livre est complètement transdisciplinaire. Alors, nous pourrions commencer de parler de votre livre, non pas en abordant directement la question de ce qu'est une fiction, de ce qu'est un fait et de la frontière que vous voulez tracer, ça sera plutôt à la fin de l'entretien, une fois qu'on aura débroussaillé le terrain. Si vous voulez bien, je commencerai par l'utilisation que vous faites des disciplines de psychologie, de disciplines d'imagerie cérébrale pour, vous avez vérifié en fait auprès de ces livres-là, auprès de ces savants-là, chercher si la distinction qu'il y aurait entre fiction et fait, s'il n'y en a pas déjà une raison valable à l'intérieur de notre cerveau. C'est bien ça?
Absolument. Absolument. En effet, j'ai sollicité, j'ai non seulement lu, mais j'ai aussi eu de nombreux entretiens avec des spécialistes de sciences cognitives et de psychologie. Alors, normalement, effectivement, on sollicite les sciences cognitives pour dire assez rapidement qu'il n'y a pas de différence dans l'appréhension que nous avons, disons, oui, du fictionnel et du factuel. Et la raison en est la découverte des neurones miroirs, l'idée que une action, qu'elle soit perçue ou qu'elle soit lue, ou regarder sur un écran déclenche les mêmes réactions cognitives d'imitation, hein, d'imitation imaginaire, cela déclenchant des émotions, des évaluations morales, enfin toute une architecture compliquée cognitive. Eh bien, j'ai essayé d'y regarder de plus près et j'ai vu qu'il y avait effectivement un certain nombre d'études, alors qui d'abord montraient que l'exposition à des scénarios, à des scénarios factuels et fictionnels, eh bien, activait différentes zones cérébrales, différentes zones, différentes catégories de la mémoire, et ça, ça m'a paru vraiment absolument fondamental. Et ça a été donc une des voies que j'ai creusées. Et la seconde que j'ai aussi développée, c'est, on en reparlera peut-être tout à l'heure, le rapport à l'action. Effectivement, la lecture de fiction produisant une sorte de déconnexion par rapport à l'environnement sensoriel immédiat et par rapport à l'action. C'est donc dans ces directions que j'ai travaillé.
Parce que ce qui m'a étonné, c'est que dans le domaine de la psychologie, du développement, il y a depuis un certain temps des études qui ont été menées, notamment sur les enfants. On sait que dans notre culture, l'enfant jeune peut avoir des personnages imaginaires, peut confondre la réalité de la fiction, que les parents, l'institution médicale considère qu'il est normal qu'un jeune enfant puisse confondre, mais qu'à partir d'un certain âge, il doit arrêter de confondre son imaginaire avec la réalité concrète des faits, qu'il y a un âge pour cela, et à partir du moment où, passé un certain cap d'âge, l'enfant continue à mélanger les deux, on considère qu'il a des soucis, qu'il a des problèmes d'ordre psychologique. Ces études-là, quand vous en avez entendu parler, quand vous avez approfondi cette question, est-ce qu'elles vous ont surprise que les psychologues aient réalisé ce type d'études ?
Écoutez, c'est très amusant ce que vous me dites, parce que justement, cette idée que vous développez rapidement suggère que l'irréalisme est convenable au jeune âge. Et nous sommes en effet dans une société qui partage tout à fait cette croyance selon laquelle les enfants mélangent fait et fiction et que cela est convenable, en effet, et charmant sans doute. En fait, les enfants distinguent très très précocement la réalité et la fiction. Très précocement. Et l'éducation aurait même plutôt tendance, dans les études que j'ai lues qui traitent de cette question, plutôt tendance à prolonger, par exemple, prolonger l'irréalisme du jeune âge, par exemple, en insinuant la croyance dans le Père Noël ou en donnant leur aval à des créations fictionnelles, etc. Il y a effectivement beaucoup d'études qui sont faites et la distinction est, ma foi, très précoce, hein, je crois vers 3-4 ans. Alors, il y a même beaucoup d'études qui sont faites, hein, dont j'ai rendu compte, même beaucoup plus sophistiquées sur la capacité qu'ont les enfants à considérer que les personnages fictionnels appartiennent à un monde ou à un autre. Est-ce que Cendrillon peut communiquer avec Superman? Voilà, donc tout ce genre de questions. Et en principe, effectivement, les enfants sont tout à fait capables de délimiter justement les frontières des mondes auxquels appartiennent ces différents personnages, hein, d'une façon tout à fait étonnante. Donc, alors, bon, évidemment, peut-être que cette capacité s'affermit avec l'âge, mais elle est très très précoce.
Ça, c'est pour l'enfant. Il y a après, des scientifiques ont donc réalisé également des tests d'imagerie cérébrale pour les adultes, essayer de comprendre s'il y a des zones du cerveau qui distinguent la réalité de la fiction. Et ça donne quoi, ça ?
Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut effectivement distinguer plusieurs types d'expériences, hein, parce que nous sommes en train de parler de l'exposition à des scénarios factuels et des scénarios fictionnels, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qui n'est pas la même chose que la distinction entre le réel et l'imaginaire. Hein, effectivement, il y a énormément de tests qui permettent de détecter l'incapacité à distinguer le réel et l'imaginaire. Ce sont des symptômes très graves. Hein. C'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus difficile détecter la différence entre, encore une fois, l'exposition à un scénario fictionnel. Est-ce que vous avez dîné avec Cendrillon, par exemple, hein, ou un scénario factuel, effectivement, il y a tout à fait une différence dans un cas lorsqu'il s'agit de personnages fictionnels, c'est la mémoire sémantique qui se met en place. C'est un autre type de mémoire, la mémoire qui a rapport à soi-même et au rapport au monde que nous pouvons avoir, qui se met en place si on vous demande si vous avez dîné avec George Bush, par exemple. Donc, il y a effectivement des différences de réponses neuronales qui sont tout à fait significatives.
Et vous concluez cette partie-là, je vais vous citer un peu longuement, vous concluez par ces quelques phrases. La problématique des neurones miroirs et de la simulation met en évidence la tendance à confondre le réel et l'imaginaire. Nous possédons néanmoins, dès la petite enfance, la capacité à les distinguer, même si des maladies peuvent l'altérer. Et si le temps rend parfois indiscernable la différence entre des souvenirs de faits s'étant réellement déroulés et des informations d'autres provenances. Il existe aussi des cultures où ce partage ne s'effectue pas, ou pas de la même manière. Cette malléabilité, cette fragilité inhérente à notre appareil cognitif n'en rendent pas moins invraisemblable une anthropologie généralisée de l'illusion où tout serait fiction au sens large du terme. Une telle perspective très répandue à partir des années 1980 et dont nous nous dissocions ne permet pas non plus de comprendre le rôle que jouent les fictions dans les cultures qui les admettent. Je voudrais qu'on parle maintenant de cette question-là, qui est que vous, dans toutes vos théories que vous exposez, vous luttez contre le tout fictionnel, c'est-à-dire que... Notre monde pourrait être une vaste fiction, et nous serons que, un peu comme dans le film Matrix, dans un monde de simulation et de fiction généralisée. Ça, par principe, vous le rejetez.
Oui, je le rejette parce que j'affirme dans tout ce livre justement mon amour des fictions. Mais mon amour des fictions suppose que tout n'est pas fiction. Effectivement, quand je lis que c'est tout à fait la même chose de lire une fiction et de poursuivre une conversation téléphonique, que j'ai le même intérêt pour un personnage de fiction que pour les histoires de mes voisins, que la fiction et le commérage ont partie liée. Je pense en effet que ça ne rend absolument pas compte du plaisir tout à fait spécifique qu'il y a à s'immerger dans un monde fictionnel. Ça ne se rend pas compte de ce qu'est un monde fictionnel. Et je pense qu'en effet, il y a un brouillage qui provient, qui a différentes sources hein, depuis des dizaines d'années, philosophiques, sociologiques, mais aussi, je pense que par exemple, l'abus de la notion de storytelling brouille la différence de notion entre le récit, le mensonge, la fiction, Par exemple, peut participer de cette espèce de panfictionnalisme qui, à mon avis, rend le monde lisse, atone et monotone. Au contraire, je suis pour la mise en évidence des singularités et le monde fictionnel. Les mondes fictionnels ont, à mon avis, comme je le défends, leur ontologie propre.
Vous adoptez une définition plutôt étroite de la fiction qui est celle-ci. La fiction est un artefact culturel produit par l'imagination et non soumis aux conditions de vériconditionnalité fondées sur la référence au monde empirique. Cette définition étroite de la fiction, c'est ce qui va et c'est ce qui vous permet de construire votre livre et d'être dans la transdisciplinarité, justement en rejetant le tout fictionnel. Est-ce bien ça ?
Oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans la définition que vous avez citée, n'est pas pris en compte le fait que j'insiste aussi sur l'hybridité fondamentale de la fiction. Je ne considère pas que la fiction soit entièrement non référentielle. Je pense que à l'intérieur des fictions, effectivement, il y a énormément d'éléments référentiels. Et donc, ma définition n'est pas si étroite que ça, justement, je crois, parce que je la fonde, en effet, à la fois sur la pluralité des usages. Je ne dis pas du tout qu'il y a une seule façon d'aborder une fiction. Je pense qu'on peut apprendre avec les fictions, qu'on peut modifier ses croyances à l'aide des fictions. Et je pense aussi que même si la fictionnalité est liée, bien évidemment, à l'imaginaire et donc à la non-référentialité, comme je l'ai dit, on trouve peu de fiction qui ne soit pas mêlée d'éléments référentiels, d'éléments historiques et de choses qui réfèrent au monde.
Parce que vous, en posant néanmoins une fiction, j'ai bien compris que bien entendu elle est un peu plus large que juste ce que je viens de citer, néanmoins, d'autres chercheurs ont fait des définitions, développé des définitions de la fiction beaucoup plus larges que la vôtre, et en adoptant une position plus restrictive, ça vous permet justement de penser plus largement cette question, et ça vous permet aussi, surtout, d'avoir une déclaration d'amour pour la fiction, pour la fiction narrative, notamment, et vous portez en contre cette histoire de la haine de la fiction qui est développée peut-être depuis les années 60, en France peut-être depuis telle qu'elle. Vraiment, vous attardez longuement sur le fait que la fiction a été discréditée par un certain nombre d'écrivains eux-mêmes. Et c'est contre ça aussi que peut s'inscrire une partie de votre livre.
Absolument, absolument. Bien sûr, vous venez de le dire, la haine de la fiction a une très très longue histoire. J'aime beaucoup la comparaison que fait l'anthropologue Jacques Goudy des fictions avec les cultures du luxe et en particulier la culture des fleurs, disant que l'on a très souvent à la fois interdit la culture des fleurs, le luxe et les fictions. Alors ça nous paraît maintenant tout à fait bizarre, puisque les fictions sont planétairement répandues et consommées, mais je pense quand même que le statut de la fiction, et c'est ce que j'ai dans le livre, est toujours fragile, est toujours menacé. Et en effet, je crois qu'il y a une haine de la fiction qui, pour beaucoup de raisons, s'est exprimée après-guerre, dans les années 60, dans les années 50-60. Il faut aussi songer, par exemple, à Ce que l'on pouvait penser de la fascination pour les spectacles qui avaient favorisé la montée du nazisme, par exemple, la peur de l'identification, et également, après-guerre, la haine de Hollywood comme machine à décérébrer, comme... effectivement, industrie de l'illusion et de l'identification. Alors, moi, au contraire, je ne méprise pas l'immersion fictionnelle, je ne fais pas non plus je ne donne pas un privilège à la fiction écrite. Et comme je l'ai dit dans mon livre, en effet, dans les années 80, la réhabilitation d'une forme de naïveté, de l'amour pour les personnages, de l'intérêt pour les personnages, l'oubli de diktats tels que les avaient formulés le formalisme tout au long du XXe siècle, proclamant que le personnage n'était qu'un être de papier, se moquant de toute forme, en effet, d'investissement affectif de la part du lecteur pour le personnage. Écoutez, moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait rien de plus honteux que de se soucier de la psychologie du personnage. C'était un gros mot. Il était également tout à fait malvenu de se poser des questions éthiques quant aux fictions. Eh bien, il y a eu effectivement, je pense qu'en effet, la période riche, brillante, du point de vue de la théorie littéraire, indéniablement, du structuralisme et du formalisme, est une période qui ne permettait pas du tout de penser la fictionnalité et interdisait aussi d'aimer les fictions.
Parce que là, je vais vous citer à propos de Philippe Solers, vous avez cette phrase terrible.
Oh, terrible, vraiment.
Non, mais qui explique son point de vue, qui lui, c'était vraiment une conception de la fictionnalité qui était vraiment presque absolue. Solers suppose la lassitude d'un lecteur rompu au jeu de faire semblant de la fiction, connaissant par cœur toutes les procédures d'entrée dans un monde, réticent à suspendre son incrédulité, blasé par la gamme des émotions suscitées par la lecture d'un roman. On en était là dans les années 60.
Oui, voilà, tout à fait. Non, ma phrase n'est pas terrible. Je jubile au contraire en pensant combien c'était faux qu'il n'y a pas de lassitude à l'égard justement des trucs de la fiction, des personnages de la fiction. Enfin, c'est justement, enfin, ne pourrait-on d'ailleurs pas penser, et ce serait peut-être un peu triste, que c'est une lassitude par rapport à des ficelles romanesques. Je dis que c'est un peu triste parce que peut-être que l'opinion de Solers signale la fin du corpus littéraire. Ce qui a explosé après, ce sont les univers virtuels, c'est le monde numérique et donc un renouvellement absolument incroyable des usages de la fiction. Effectivement, c'est une banalité de le dire, la fiction a explosé en une myriade de mondes virtuels, ludiques. Et je crois qu'en effet, la lassitude s'est transformée, au contraire, en enthousiasme planétaire, je pense.
Dans une seconde partie de votre livre, qui est intitulée « Culture et croyances », vous posez cette question, y a-t-il des cultures sans fiction ? Vous expliquez qu'il n'y a pas de culture sans fiction si l'on entend par fiction ce qu'on appelle désormais couramment le storytelling, c'est-à-dire la propension à raconter des histoires sans grand rapport avec la réalité. Mais, et là je vous cite, « mais si l'on prend en compte la définition plus étroite qui a émergé, notamment en Europe, à partir de l'époque moderne, comme le fait de représenter, de prendre du plaisir à la représentation d'un état de choses dont on sait qu'il n'existe pas, la réponse est intuitivement positive, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des cultures sans fiction. La définition et cet usage de la fiction supposent une disposition mentale et comportementale dont il n'y a aucune raison de penser qu'elle ait été de tout temps possible, considérée comme souhaitable et susceptible d'être valorisée. Cela n'a même pas été le cas dans la civilisation occidentale qui semble être et avoir été le milieu le plus favorable à la production, la consommation et la célébration des fictions. Quand j'ai lu ça, immédiatement j'ai pensé que vous remettez les idées à plat sur cette histoire qui semblait faire consensus que la fiction, entendue comme roman, avait été inventée par l'époque moderne en Europe.
Oui, alors d'abord, la fiction ne se réduit pas au roman, bien sûr, hein, et surtout pas au roman réaliste, et surtout pas au roman du 19e siècle. En effet, mon livre combat toute histoire restrictive de la fiction. Je ne pense pas que la fiction... Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ma définition, mon Dieu, n'est pas si étroite. Il y en a de bien plus étroites. Alors vous me direz qu'il y en a de bien plus larges, mais il y en a de, vraiment de bien plus étroites, décidant que la fiction naissait au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Écoutez, non, je pense en effet que la plupart des cultures, et sur une période extrêmement longue, connaissent des fictions, même si évidemment ils ne connaissent pas de théorie de la fiction. Et pour élargir cette histoire de la fiction, eh bien j'ai donné l'exemple, pas seulement d'un roman, mais d'un roman où se trouve développée une conception extrêmement articulée, sophistiquée de ce qu'est la fiction, et c'est un roman de l'an 1000, un roman extrême oriental, le dit du Genji, où effectivement dans un chapitre célèbre, en tout cas pour ceux qui connaissent le roman, le chapitre dit des Lucioles, eh bien dans une conversation sont développées vraiment une théorie très subtile de la fictionnalité. Donc, comme je le dis dans ce livre, je suis allée chercher très loin les cultures qui n'avaient pas de fiction, où il était vraiment très difficile de considérer qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une pratique, un usage de la fictionnalité, c'est-à-dire de l'imaginaire en tant que tel. Et avec l'aide d'anthropologues, la lecture, la conversation, en particulier avec Marika Moïsef, Carlos Evry, eh bien, effectivement, j'ai considéré que des tribus amérindiennes, par exemple, les Indiens Kuna ou les Indiens Aranda, eh bien, étaient des cultures qui étaient entièrement tournées vers le rite et qu'il fallait distinguer ces pratiques-là, qu'il y avait une forte différence entre ces pratiques votives, rituelles, et quelques usages, que ce soit de la fiction. Mais vous voyez, je les repousse très loin, et loin de moi l'idée de penser qu'il n'y a pas de fiction au Moyen-Âge, qu'il n'y a pas de fiction dans l'Antiquité, qu'il n'y a pas de fiction dans d'autres aires culturelles. Bien sûr, il y a des valorisations différentes. Il y a des cultures qui valorisent à des degrés différents la production et la consommation de fiction. Bon, par exemple, effectivement, dans le monde arabe, la poésie, la diction est largement favorisée par rapport à la fiction. Il y a en effet des différences indéniables. C'est pas pour autant que dans le pays des mille et une nuits, il n'y a pas d'usage de la fiction.
Si je comprends bien, la valorisation différente de la production de la fiction, ça c'est ce qui pourrait être vraiment essentiel à comprendre. Et alors, on ajoute que c'est dans nos sociétés occidentales que cette valorisation différente de la production de fiction a été maximale.
Oui, je pense qu'en effet, malgré une lutte continue contre le théâtre, contre le roman, bon, on oublie quand même, par exemple, qu'en Europe, en France, au XVIIIe siècle, il y a de longues années où la publication de romans est interdite. Bon, on sait que tout au long du XVIe, du XVIIe siècle, les théâtres sont périodiquement fermés. Donc, même en Europe, c'est une histoire très traversée. Cependant, il est indéniable qu'il y a une valorisation de la littérature, du théâtre, du roman, que l'on fait carrière à travers les fictions en Occident à partir d'une époque assez reculée, et que même si je me suis vraiment beaucoup intéressée à la valorisation de la fiction en Chine et au Japon, et donc il ne faut pas du tout minimiser la richesse de la production et l'intelligence de la théorisation précoce des productions fictionnelles. Bien, il y a malgré tout en Occident, par exemple au XVIe siècle en Italie, un débat interminable sur les avantages comparés de l'histoire et de la poésie. Et par la poésie, on entend bien là la fiction, la fable, ce qui n'existe pas. Et donc, il y a à travers en particulier la réception d'Aristote et les commentaires d'Aristote, il y a une production théorique intellectuelle qui est extrêmement vive, et je crois qu'il n'est pas difficile de nier qu'en effet, l'Europe, en particulier l'Italie, la France ont été précocement des lieux de culte de la fiction, de valorisation de la fiction, malgré, comme je l'ai dit, des attaques, des reculs, une fragilité intrinsèque de la culture de la fiction.
Et aussi, de la part de l'Europe, de même qu'il y a eu processus de mondialisation des sociétés européennes, par la colonisation, il y a eu aussi colonisation des esprits de la fiction, c'est-à-dire un rejet d'une forme de pratique impure de la fiction, c'est-à-dire des populations, des sociétés qui n'avaient pas conscience de la fictionnalité.
Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait votre question. Le début de votre question me donnait à penser que, bon, effectivement, la question coloniale intervient de façon centrale dans l'histoire de la fictionnalité. Il est particulièrement intéressant, par exemple, de voir une sorte d'impérialisme du roman à l'européenne au XIXe siècle, au début du XXe siècle. En Amérique du Sud, en Chine, en Chine en particulier, alors qu'il y a une tradition de romans extraordinaire, je ne vous apprends rien, ils sont rejetés parce que pour moderniser la société, on ne trouve rien de mieux que d'importer des modèles romanesques occidentaux. Et donc, en effet, à peu près dans le monde entier, dans le monde arabe, en Chine, en Amérique du Sud, la naissance d'États modernes est associée au fait d'écrire des romans selon le modèle occidental. Des romans développant l'individualisme. On croit tout à fait que cela développe les classes moyennes, etc. Alors, en effet, il y a eu une sorte d'impérialisme, d'une forme de roman. Je ne sais pas si c'est exactement sur ça que portait votre question.
La première partie, effectivement.
La première partie, oui, en effet. Et je pense que, bon, il y a eu aussi, il y a toujours une opposition que l'on trouve dans certaines aires du monde à l'égard à l'égard des productions hollywoodiennes. Si on prend aussi, par exemple, les mondes virtuels, Second Life, où, bon, maintenant c'est dépassé, mais ce genre d'univers en ligne, on voit aussi que ce n'est pas tout à fait le monde entier qui y est. C'est globalisé, mais ce sont essentiellement les pays occidentaux et extrêmes orientaux qui sont les consommateurs des grandes fictions mondialisées, qui sont consommateurs de mondes virtuels. Donc, il y a une globalisation, mais la globalisation, l'idée de globalisation masque encore des disparités fortes, je pense, dans l'acceptation de la fiction, ou en tout cas d'un certain type de fiction aussi, il n'y a pas que la fiction ne se résout pas au blockbuster hollywoodien ou naturellement au monde en ligne.
Et la deuxième partie de ma question, oui. J'ai retrouvé, oui, justement la citation. Je vous lis. Les pratiques parfois considérées comme impures de la fiction, reposant sur l'hybridation du factuel et du fictionnel ou sur la dissimulation du statut des artefacts culturels, n'exclut certainement pas la conscience de la fictionnalité. Celle-ci n'est cependant pas universelle. C'est-à-dire qu'il y aurait eu aussi quelque part un impérialisme européen sur cette question-là, parce que celle-ci n'est cependant pas universelle.
La conscience de la fictionnalité n'est pas universelle. Non, là, je ne parle pas d'impérialisme européen. Ce que je défendais, au contraire, dans la citation que vous avez relevée, c'est l'impureté, en effet, de la fiction, l'hybridité de la fiction. Je pense, en effet, que ce n'est pas parce qu'on dissimule le statut de la fiction, ce n'est pas parce qu'on dit faussement que c'est de l'histoire alors que ce n'est pas du tout, que c'est un manuscrit trouvé ou encore une fois que éléments fictionnels factuels sont mélangés, qu'il ne s'agit pas de fiction et qu'on n'a pas conscience du fait qu'il s'agit d'œuvres en tout cas partiellement imaginaires. Donc voilà ce que je disais, qu'en effet refuser l'impureté de la fiction, alors là, c'est peut-être en ça que je réponds à votre question, là, cela donne un privilège, à mon avis, indu à des formes pure, entre guillemets, de fictionnalité qui serait, en effet, Madame Bovary. Le roman du 19e siècle dont aucun personnage n'a de référent.
Voilà, c'était là où je voulais,
effectivement. Voilà, c'est ça que vous voulez, effectivement, vous oui.
J'ai raccourci un peu, j'ai rapproché deux blocs qui pouvaient sembler un peu incohérents, mais... Si on prend la pureté d'un roman tel que Madame Bovary, ça ne se trouvait pas dans d'autres civilisations forcément à cette époque-là.
Oui, d'accord.
Parce qu'il y avait une pureté de la fiction que pouvait apporter la civilisation occidentale à ce moment-là. Est-ce que vous seriez d'accord?
Oui, je suis d'accord, bien que même au XIXe siècle, cette pureté de la fiction est très, très relative. Vous voyez Notre-Dame de Paris, relue récemment, Hugo s'amuse à dire qu'il s'agit d'une histoire, qu'il s'agit d'une chronique, qu'il s'agit... Alors évidemment, personne ne le croit, mais je pense qu'on ne le croyait pas davantage, on ne croyait pas davantage aux protestations de factualité dans des périodes antérieures. En tout cas, c'est toujours mélangé. Il y a toujours effectivement à la fois un jeu sur la fictionnalité, la factualité des œuvres, et il y a également des réceptions qui sont contrastées. Il y a effectivement toujours des gens qui croient que tel roman est factuel. Enfin, c'est beaucoup plus. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment ni d'œuvre pure, ni de réception pure de la fictionnalité. Ou alors c'est un périmètre très, 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 très réduit dans l'histoire, dans la grande histoire de la fiction.
Eh bien, merci beaucoup, Françoise Lavocat. Merci pour cet entretien et pour cet essai qui me semble important, Fait et fiction pour une frontière, que l'on trouve actuellement en librairie aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Merci.